France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Antoine Gerber, je suis né le 9 mai 1958 à Paris et je dirige l'ensemble Diabolus in Musica. Les musiques que nous pratiquons viennent du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période très 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 éloignée et aussi très très proche de nous.
Vous allez vous installer dans cette région dans laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire la région de Tours, qui est une région qui a quand même une vraie histoire avec la musique ancienne.
Oui, je suis
pas
venu...
complètement un hasard.
Non, c'est même pas du tout un hasard. Je suis venu à Tours parce que d'abord, je commençais à chanter dans différents ensembles. Il y a eu l'ensemble Gilles Machois, l'ensemble Organum. Il y a eu l'ensemble Métamorphose à Paris et l'ensemble Jacques Moderne à Tours. Ça se passait quand même très souvent à Paris, donc je prenais beaucoup le train de Pau. C'est loin, c'est cher. À l'époque, les ensembles avaient des finances en meilleur état que maintenant, on me payait le train, mais c'était compliqué, c'était long. Et puis, j'ai voulu me rapprocher de Paris, mais pas habiter à Paris, que j'avais fui quand j'avais 22, 23 ans. J'avais fui Paris, c'était pas pour y revenir, mais je voulais simplement m'y rapprocher. J'ai hésité entre Tours, entre Poitiers, qui est une ville très médiévale, Niort, Angers, on avait visité plusieurs villes, et puis avec ma compagne, on a opté pour Tours, et je le regrette pas, ô combien. Parce que je m'étais mis à chanter avec l'ensemble Jacques Moderne de Jean-Pierre Ouvrard. J'ai fait les Jean-Pierre Ouvrard qui habitait à 300 mètres d'ici, à Rochecorbon. J'ai fait mes premières répétitions à l'ensemble Jacques Moderne à 300 mètres d'ici, c'est drôle, rue du docteur Lebled à Rochecorbon. Et j'ai découvert la région, j'ai découvert Tours, j'ai découvert l'intérêt pour les musiques anciennes à Tours. Et puis Jean-Pierre Ouvrard avait... des connaissances, une force de conviction incroyable. Ça a été une immense perte de le perdre si jeune. Et j'ai eu le triste honneur de faire les derniers concerts avec lui jusqu'à la veille de sa mort. Je m'en souviendrai toujours.
Au tout début des années 90.
En 92, exactement.
Qu'est-ce qu'il avait de différent? Qu'est-ce qu'il vous apportait après un Marcel Pérez?
Jean-Pierre Ouvrard, c'était un vrai musicologue. Dominique, Marcel Pérez sont des interprètes qui, donc évidemment, comme moi, quand on s'intéresse à ces répertoires, on est comme Monsieur Jourdain, on fait de la musicologie tous les jours. Mais faire de la musicologie tous les jours ne fait pas de vous un musicologue. J'ai le plus grand respect pour ces gens-là, qui font une profession extrêmement difficile, avec une rigueur scientifique extraordinaire. Et Jean-Pierre Ouvrard avait bien sûr cela. C'était un très grand musicologue et il était en train de renouveler, d'une part, de renouveler l'approche de toutes ces musiques du XVIe siècle, ici à Tours, qui ont été ô combien vivantes, avec son savoir et sa rigueur scientifique. Mais c'était quelqu'un qui était d'abord passionné d'interprétation. Et l'intérêt de son travail scientifique, c'était pour qu'il y ait des restes institution musicale, et il a tout de suite travaillé avec des chanteurs, avec ses étudiants, puis c'est devenu professionnel, et voilà, ça a été une immense perte après son livre sur Josquin des Prés, en plus, qui a totalement renouvelé les connaissances sur Josquin.
Il y a aussi l'ensemble Perceval, si on termine un peu cette cartographie, oui, dans laquelle vous avez baigné pour vous construire votre propre
Oui.
vision à vous, Antoine Gerber, cet ensemble aussi.
Oui, j'ai fait plusieurs années de concerts au sein de l'ensemble Perceval. Donc l'ensemble Perceval qui est né à la suite du film Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, avec Fabrice Lucchini et Ariel Dombal très très jeune. Et la musique avait été confiée à Guy Robert, qui fait partie de ces musiciens pionniers des années 60-70, complètement fous. Une des personnes les plus habitées par les trouvères que j'ai connus, c'est tout juste s'il parlait pas la langue d'oïl comme ça, à table tous les jours, il vivait au Moyen-Âge. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect et c'est extrêmement triste parce qu'il est décédé l'année dernière du Covid. Mais c'est quelqu'un qui, on peut le dire, sort de l'assistance publique, il s'est forgé entièrement tout seul, qui est allé jusqu'à devenir un des grands connaisseurs de la poésie française. C'était un amoureux fou de poésie du XIIe siècle, du XIIIe siècle. Bon, alors, c'était pas ma manière de faire, j'y suis pas resté, je critiquais a posteriori telle chose, tel instrument, telle manière de faire. Donc, le plus simple, c'était de me concentrer sur mon ensemble Diabolus in Musica, qui commençait à prendre un petit peu d'ampleur. Ça a été laborieux, ça s'est pas fait en 15 jours. Il faut du temps, mais j'ai fini par m'y consacrer totalement.
Je chantais sa volontiers, je trouvais sans mon cœur le choison, et de lui se mettre les romances, j'osais se mettre ma tension. De la grande cour de France à Mourenon, où toute valour se baigne, des prud'hommes meloutiques s'en plaignent, dont un diable vient pour en parler, ceux qui partent leur sens et leur savoir.
Alors, c'est 1992. Vous reprenez cet ensemble qui était donc l'ensemble d'une fratrie à l'origine, un ensemble amateur, et que vous, Antoine Gerber, allez décider de rendre professionnel. Comment on choisit ces musiciens, ces chanteurs? Et dans ce champ énorme du Moyen-Âge qui nous offre quand même plusieurs siècles, on dit c'est une niche, enfin c'est une très grande niche. Qu'est-ce qu'on choisit aussi comme c'est ça, qu'est-ce qu'on choisit comme axe? Parce que on le voit bien dans votre discographie, mais j'aimerais que ce soit vous aussi qui le racontiez aux auditeurs, les axes principaux vous allez décider.
Il faut faire des choix
servir.
Parce qu'on est devant un continent. J'ai voulu qu'on passe professionnel, me rapprocher de Paris. Évidemment, c'était compliqué pour les frères Touron qui avaient leur métier de graphiste. Et je leur ai dit, il faut qu'on se consacre à ça, il faut qu'on devienne professionnel. Ils m'ont dit, on peut pas, c'est pas possible. Ils ont eu peut-être un peu. C'était d'excellents musiciens. Dominique, c'est un magnifique joueur de vielle à roue. Il aurait parfaitement pu devenir professionnel, mais fallait. Il était ancré dans son métier de graphiste et évidemment, c'est pas quelque chose qu'on lâche quand on démarre une carrière. Il avait 35 ans à l'époque et donc il m'a dit "Écoute, vas-y, t'as raison. Je te laisse les clés du camion, on va dire." Et le nom et les instruments, il m'avait fait faire une petite guitare, un instrument à cordes. Il m'a dit
la
prends
guitare,
la guitare.
C'est des cordes pincées. Hein.
Oui, c'est des cordes pincées qu'on joue avec un plectre, quatre cordes. La mienne est à caisse plate. En fait, la vraie guitare, je l'ai su après, elle est à caisse arrondie. Mais voilà, j'avais l'instrument, j'avais le logo, le graphisme Diabolus in Musica. Il m'a dit il faut que cet ensemble continue. Nous, on peut pas suivre, mais Vas-y, c'est parti. Et donc c'était parti et je me suis installé à Tours en démarrant de façon officielle, en déposant les statuts à la préfecture d'Indre-et-Loire, concrètement et en disant ça y est, on est un ensemble professionnel, mais on partait de zéro. Avec ma compagne qui heureusement, elle avait de solides connaissances en informatique, en comptabilité, c'est elle qui a mis en place toute la structure administrative, parce que quand on parle d'un ensemble, évidemment, c'est l'artistique qui compte, qui fait sa réputation, mais il y a toute la face cachée derrière qui n'est pas forcément simple. Quand on est musicien, on n'est pas comptable et administrateur. Et donc, moi, j'ai voulu que ça soit aussi bien fait sur le devant que sur le derrière. Et ça a été le cas grâce à Marie-Françoise.
Alors, vous choisissez de vous spécialiser?
Oui, on s'est spécialisé sur le XIIIe siècle, qui est vraiment une période extraordinaire et qui me parle beaucoup, avec les débuts de la polyphonie et les débuts de la musique profane. Dans notre histoire, ça fait quand même beaucoup d'événements majeurs, à une époque où la France gothique, avec le règne de Saint-Louis, c'est un petit peu le phare culturel de toute l'Europe. Donc c'est une période vraiment passionnante où on construit énormément, on défriche, on sort de la féodalité, on commence à sortir. Il y a le pouvoir des villes qui émerge, notamment à Tours. C'est une histoire extraordinaire à Tours pour le Moyen Âge. Ça, c'est le hasard, je l'ai appris après. Donc, on s'est spécialisé sur le XIIIe siècle et puis on a tenté de se spécialiser sur des choses inédites. Je me suis dit, je ne vais pas refaire une messe de Machaut ou je ne vais pas refaire des œuvres qui sont un petit peu parcourues par les autres. Il n'y avait pas énormément d'ensemble, mais il y avait quand même des choses un petit peu balisées. Moi, j'ai voulu sortir des sentiers battus pour me faire remarquer, pour imposer ma manière de faire, ou du moins pour la faire remarquer. Et on a essayé de travailler sur des inédits locaux. Donc, je suis allé à la bibliothèque municipale de Tours sans savoir ce que j'allais trouver, et en parlant avec des musicologues, des historiens, j'ai vite repéré un manuscrit très intéressant qui est unique dans ce sens qu'il conserve une grande collection de rondelli. Les rondelli, ce sont des danses cléricales. Donc voilà, c'est assez curieux d'imaginer que c'était quelque chose de très vivant et populaire au XIIIe siècle. Dans certains endroits, évidemment, pas partout, il y avait des danses cléricales comme divertissement pour les jeunes moines, pour les jours de fête, dans certaines occasions précises, bien sûr, pas en plein milieu de la messe, forcément. Et donc, il y a deux grands manuscrits avec ces danses cléricales. Donc, il y en a un qui est archi célèbre, c'est le manuscrit de Florence qui nous transmet tout le répertoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, cette fameuse école de Notre-Dame qui est un manuscrit hyper prestigieux, très étudié depuis le 19e siècle, très répertorié. Et puis, il y a ce petit manuscrit à Tours qui ressemble à rien parce qu'il est très disparate. C'est un manuscrit probablement écrit dans le sud de la France qui a atterri à Tours, on ne sait pas trop pourquoi, qui est une histoire compliquée, et il y a une soixantaine de rondelli de danse cléricale. Donc c'est un répertoire pas du tout prestigieux, c'est monodique, c'est très simple, c'est trois notes, ça peut être à danser, ça peut être entraînant, et moi ça m'intéressait beaucoup. C'est très dépouillé, très austère, pas facile à rendre vivant, pas facile pour faire un programme de concert. Il y avait un peu tous les challenges, mais par contre c'était inédit, inconnu, jamais fait au disque, jamais fait en concert, et ça c'était très excitant pour moi. C'est vraiment un bonheur dans ces répertoires-là de faire des choses que personne n'a fait. C'est une grande liberté, mais qui a ses limites dans le sens qu'on cherche à avoir une interprétation vraiment historiquement informée. Donc voilà, c'est
Là,
pas
ça
pour.
ressemble à quoi ce que vous trouvez, le manuscrit?
Alors, ça ressemble à des pattes de mouche. C'est très intéressant, les pattes de mouche, parce que on peut être découragé tout de suite, et puis avec un peu d'aide, un peu de savoir, on s'aperçoit que c'est pas des pattes de mouche, ça a un sens très précis, et ça peut être très facile à lire. Maintenant, je lis des manuscrits en écriture gothique, pas comme les livres qui sont sur ma table là, mais presque, et c'est passionnant d'entrer dans quelque chose, de comprendre quelque chose que, voilà, un quidam trouverait abscon et improbable, impossible. En fait, si, on peut comprendre, on peut trouver des clés, on peut lire ces manuscrits du Moyen Âge. C'est pas juste je les regardais, ça a un sens et il y a de la musique qu'on peut interpréter de façon magnifique dedans.
Et dans cette interprétation, il y a une grande part de création, d'improvisation. Vous dites que là, c'est quelque chose d'assez austère, d'assez pur,
Oui,
d'assez
parce que ce
minimal.
sont des lignes mélodiques très simples. Le rythme n'est pas noté, d'ailleurs, parce que c'est souvent syllabique, mais il y a très souvent un rythme à retrouver dedans, avec la prosodie latine. Donc il y a tout à faire en fait. Est-ce qu'il faut des instruments ou pas? Est-ce qu'on chante à plusieurs? Est-ce que c'est monodique? En fait, c'est souvent des refrains tout petits, des phrases solistes, comme on fait en chant traditionnel. Vous avez le bout avant, vous avez un chanteur leader et c'est repris par la foule. On trouve ça dans les fest-noz bretons, c'est extraordinaire. Et dans ces rondelli, c'est ça. Il y a un soliste qui mène. Et qui est suivi par la foule. Mais il faut retrouver l'ordre. Quelquefois, les textes sont notés très, très vite parce que c'est répétitif. Donc, on note pas tous les textes. Donc, il faut passer par des latinistes ou par des philologues ou par des gens spécialistes de littérature ancienne, ce que je ne suis pas. Je suis rien du tout. Moi, je suis quelqu'un qui avait envie de chanter et qui a fait de la musique, mais je suis pas latiniste. Mais ça peut être assez personnel. Il y a des règles qui ne sont pas aussi automatiques, cartésiennes et mathématiques. Donc, ça peut être sujet à interprétation. Et donc, le côté interprétation personnelle et créatif intervient aussi, bien sûr, même pour ces musiques de la fin du Moyen-Âge.
Mais l'interprétation, est-ce qu'elle n'intervient pas aussi dès lors qu'il y a transcription?
Si, une transcription. Alors, ça dépend pour quelle époque, parce que c'est toujours gênant pour moi de parler du Moyen-Âge en général, alors que entre Charlemagne et puis le début de la Renaissance, évidemment, les conditions, la notation n'a plus rien à voir, la musique n'a plus rien à voir, et les conditions d'interprétation, etc., tout est différent, en fait.
Et le XIIIe siècle, par exemple, on peut dire que c'est une charnière?
Oui, c'est une charnière, c'est le début de la grande polyphonie. Et justement, dans ces premières notations qui transmettent des musiques rythmées, qui introduisent le rythme dans la musique, donc on est fin 12e, 13e siècle, cette notation modale rythmique, elle n'est pas standardisée complètement. Il y a beaucoup de passages dans lesquels on peut choisir le premier mode rythmique, long, bref, long, bref, long, mais avec un autre mode, bref, bref, long, bref, bref, long, ça fonctionnerait aussi bien sur la même notation. Il reste une ambiguïté. Mais cette ambiguïté, pour moi, elle existait au XIIIe siècle. Les questions que nous posons, les chantres du XIIIe siècle se les posaient. Et ça, c'est passionnant aussi de se dire qu'on est dans la même position.
France Musique, les grands entretiens d'Antoine Gerber.
Quand on interprète, évidemment, Antoine Gerber, on se demande qui va interpréter, combien de voix, combien d'instrumentistes, souvent peu d'instruments et plus de voix. Et ces voix-là, comment on les choisit? Est-ce qu'on choisit des voix très éthérées, un peu comme font les Anglais, par exemple? Ou est-ce que on choisit des voix avec davantage de caractère?
Oui.
Et qu'on les fait Alors, interpréter aussi avec ce qu'elles sont, mais d'une façon forte, avec vraiment la manière d'affirmer une identité,
oui,
vocale.
Alors, choisir des chanteurs, c'est vraiment des histoires de rencontres, comme dans toutes les carrières musicales, c'est vraiment une succession de rencontres, dues au hasard ou pas. Mais vous avez parlé des groupes anglais, vous avez me toucher juste parce que c'est exactement ce que je voulais pas faire. Il y a des ensembles de chanteurs anglais dès les années 70-80 qui étaient très en avance sur nous, les Français, avec des voix extraordinaires, magnifiques, très fiables, très solides. Bon, on parle du Hilliard Ensemble, mais moi j'ai entendu l'ensemble médiéval de Londres qui m'a beaucoup frappé, puis David Monroe qui a été un pionnier incroyable. Donc là, on parle, mais c'est avant les années 70, de gens incroyables qui avaient eu des intuitions parce qu'ils n'avaient pas le recul et les connaissances qu'on a, des intuitions magnifiques avec des interprétations encore tout à fait écoutables alors que les techniques d'enregistrement n'ont plus rien à voir. Mais par contre, ces chanteurs extraordinaires, d'une technique incroyable qu'on n'avait pas encore en France, ils étaient pour moi interchangeables. Ils étaient tellement interchangeables que d'ailleurs, certains, on les retrouve dans un ensemble à l'autre et ils chantent la même manière, les mêmes répertoires de la même façon. Et moi, je voulais exactement le contraire. Je voulais des voix très caractérisées. Donc, ça s'est fait par des rencontres. Les deux premiers chanteurs auxquels j'ai demandé de venir travailler avec moi dans Diabolus in Musica, j'avais rencontré Raphaël Boulet dans l'ensemble Gilles Binchois, qui avait fait ce drame liturgique avec moi et qui faisait partie des grands élèves jeunes que
des
Dominique...
supplémentaires.
Voilà, c'est ça, des pièces rapportées à l'ensemble Gilles Binchois. Mais Raphaël avait une voix extraordinaire de ténor. Et il commençait à travailler dans plein d'ensembles. Il était ténor à la Chapelle Royale de Philippe Hervègue, entre autres. Et il m'avait conseillé un baryton. On était deux ténors, il nous fallait une voix plus grave. Un jeune baryton qui était en train de terminer la maîtrise à Notre-Dame de Paris. Donc Emmanuel Vistorchi, qui était un jeune baryton, il avait 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et on a démarré les premiers concerts avec une violiste, Florence Reberol, qui faisait partie de l'équipe bordelaise des Frères Touron, qui a pas continué, mais qui a permis de nous lancer comme ça trois chanteurs. Et en 2021, ils sont toujours là, Raphaël et Emmanuel. J'ai la chance d'avoir une équipe de chanteurs extraordinaires et qui, quand même, s'est basée sur ces deux voix-là qui sont encore là et qui vont faire tous nos concerts 2021 et ensuite encore.
C'est le plaisir du chanteur aussi, et la polyphonie, et qui chante pourtant pour lui-même. Enfin, je veux dire, c'était pas public.
Mais moi, c'est ce que je ressens absolument. Et durant tout le Moyen-Âge, quand on entend ces grandes polyphonies du XVe siècle, qui sont nées dans la France du Nord, dans la Belgique actuelle, l'école dite franco-flamande, il y a un bonheur à chanter ces musiques. Ça vibre ensemble. Alors que ce sont des tout petits effectifs. Hein. On croit souvent, on pense à des chœurs, mais ça peut être 4 chanteurs, ça peut être 8 chanteurs, 4 x 2, ce sont des tout petits effectifs. Mais on sent que ces gens-là qui écrivent les musiques ont eu un bonheur incroyable à les chanter, puisqu'évidemment, les compositeurs n'étaient pas compositeurs professionnels, hein, ça n'existe pas. Même si certains ont eu conscience de leur qualité, comme Guillaume de Machaut, comme Guillaume Dufay, et même ont voulu laisser à la postérité ce qu'ils faisaient, ce qui n'est pas du tout la mentalité médiévale. Les compositeurs sont avant tout des religieux, qui ont une fonction de chantre, et qui sont chanoines souvent, prêtres ou pas prêtres, mais ils sont là pour leur fonction liturgique et ils écrivent de la musique pour embellir cette liturgie. Ce sont d'abord et avant tout des chanteurs et ces chanteurs ont eu un tel plaisir à faire leur musique, mais ça se sent à chaque écoute. Vous savez, c'est la fameuse phrase « Nous sommes des nains, mais nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants ». Les géants, ce sont les anciens de l'Antiquité, mais les anciens des générations précédentes. Eux, ils savent, eux, ils ont inventé des choses. Nous, on n'est rien du tout, on est des nains, mais on est juchés sur les épaules. Donc on peut aller plus loin qu'eux, on peut voir plus loin qu'eux. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est l'humilité médiévale personnifiée et ça me plaît beaucoup, ça.
un extrait du concerto de Gheorghe Ligeti par Patricia Kopaczynskaya et l'ensemble moderne dirigé par Peter Rudwösch. C'est ainsi que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Antoine Gerber, réalisation Lionel Quentin, prise de son Hélène Langlois, mixage Bastien Varigaud, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.